voici le 18-20 et la première page du 18-20, c'est le journal avec Amélie Perrier. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Après la stupeur, l'émotion, la générosité des mécènes, place aux applaudissements pour les centaines de pompiers qui ont éteint l'incendie à Notre-Dame de Paris lundi soir. L'équipe arrivée en premier dans la cathédrale témoigne. Le gouvernement, lui, veut accompagner l'élan populaire et annonce un geste fiscal pour les dons des particuliers, 75% de déduction sur les impôts, en dessous de 1000 euros offerts pour la reconstruction. Et une entreprise de Seine-Saint-Denis, elle, veut aider en mettant à disposition la numérisation qu'elle a faite du bijou gothique. À la une ce soir aussi, il manque 23 millions de femmes sur Terre à cause de la préférence aux bébés garçons appliquée dans des pays comme la Chine ou l'Inde. Et puis l'histoire d'une boxeuse iranienne et de son entraîneur Mayar Monshipour. Elle a remporté son combat mais ne peut pas retourner dans son pays qui condamne ce sport pour les femmes.
18h15, 19h, un jour dans le monde. Ce soir, le chaos en Libye. L'offensive militaire du maréchal Haftar pour prendre le contrôle de la capitale Tripoli où siège un gouvernement reconnu par la communauté internationale mais qui n'a semble-t-il que peu de pouvoir sur l'ensemble du pays. Les forces en présence, les enjeux de ce conflit, l'attitude de la France jugée ambiguë. Pour répondre à ces questions, nous recevrons Patrick Hamzadeh, ancien diplomate français en poste à Tripoli. Il avait publié en 2011 chez Jean-Claude Lattès « Au cœur de la Libye de Kadhafi ». 19h15, le téléphone sonne. Emmanuel Macron envisage de supprimer l'ENA. L'occasion de s'interroger sur cette école. Les énarques, est-ce une caste déconnectée des réalités des Français? Quelle formation efficace pour les élites en France? Vos questions, dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter.
Amélie, ce sont les héros de Notre-Dame.
Ceux qui se sont battus pendant plus de 9 heures pour venir à bout des flammes. Ceux qui ont permis apparemment à l'édifice de ne pas finir en tas de cendres. Les pompiers de Paris, éprouvés mais aussi applaudis par les passants autour de la cathédrale. Bonsoir Thibault Lefèvre.
Bonsoir Amélie.
Alors aujourd'hui, ils parlent enfin pour nous raconter cette opération inédite, unique, bouleversante pour beaucoup. Vous venez de rencontrer la toute première équipe à avoir pénétré dans Notre-Dame en flammes.
Oui, ce sont les pompiers du centre de secours Poissy, à moins d'un kilomètre de Notre-Dame, qui arrivent donc les premiers sur place. Une dizaine de femmes et d'hommes qui entrent donc dans la cathédrale en feu avec tout de suite une mission. Monter dans les tours par des escaliers d'à peine 60 cm de large et essayer d'éviter la propagation des premières flammes. En tête de cette première colonne, l'adjudant-chef Jérôme Demey.
C'est étroit, il n'y a pas beaucoup de lumière. Le matériel est lourd, qui plus est pour mes hommes et pour mes femmes que je suis amené à commander. Donc c'est vraiment du gros matériel à monter tout en haut des tours. Et là, c'est un balcon qui fait une largeur environ d'un mètre. Et forcément, lorsqu'on ouvre la porte et on arrive donc sur ce balcon au dernier étage des tours, et bien on voit à ce moment-là cette scène de catastrophe avec quasiment la toiture qui commence à partir de tous les côtés. C'est l'intervention la plus majeure que j'ai pu rencontrer.
Derrière l'adjudant-chef de Demey, la toute jeune caporale-chef Myriam Chutzinski, elle est restée une heure sur la corniche entre les deux tours avec sa lance à eau.
C'est noir de monde dehors, on voit tout le monde filmer. On a des petites lances, il faisait très très chaud et on devait reculer. On était en train d'essayer d'abattre les flammes. Et d'un seul coup on entend un énorme bruit. Je pense que c'était la flèche qui s'écroulait à ce moment-là. Donc là après on demande des moyens lourds et c'est ces moyens-là qui pourront permettre l'extinction en fait.
400 soldats du feu qui arriveront donc très vite sur les lieux. Après une heure de corps à corps avec les flammes, l'équipe de l'adjudant-chef Demey recevra l'ordre de descendre de la corniche. La dizaine de pompiers restera ensuite pendant les 9 heures de l'intervention.
Thibault Lefèvre, Raymond Alboué aux moyens techniques, merci à vous deux. Et dans une France en pleine crise, la catastrophe a eu le mérite de rassembler quelques heures au moins le pays. Et si les grandes fortunes et les groupes privés ont déjà mis des centaines de millions d'euros dans la cagnotte pour reconstruire Notre-Dame, l'État veut aussi ouvrir cet effort à tous les Français qui le souhaitent. Geste politique, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé donc une réduction d'impôts exceptionnelle de 75% pour les particuliers qui donneront moins de 1000 euros.
Nous devons nous réjouir de ce que des personnes physiques très nombreuses et parfois très modestes, que des personnes physiques moins nombreuses et parfois très riches, que des entreprises souhaite participer à l'effort de reconstruction d'un bâtiment qui n'est pas un bâtiment, ou plus exactement qui n'est pas seulement un bâtiment. J'ai indiqué les conditions fiscales dans lesquelles ces dons allaient être traités. Il ne vous aura pas échappé que seuls les dons inférieurs à 1000 euros bénéficieront d'un régime fiscal spécifique. Pour tout ce qui est au-delà de 1000 euros, c'est le régime de droit commun qui s'appliquera.
Et le Premier ministre a listé les 4 organismes chargés de collecter les fonds pour la reconstruction. La Fondation Notre-Dame, la Fondation du Patrimoine, la Fondation de France et le Centre des Musées Nationaux. Il y a un site pour toutes les informations. C'est le www.gouvernement.fr/rebâtir-Notre-Dame en un seul mot. Pour les entreprises, les réductions d'impôts habituelles s'appliqueront. Face à la polémique naissante, la famille Pinault annonce qu'elle ne fera pas valoir l'avantage fiscal auquel elle pouvait prétendre avec son don de 100 millions d'euros. En tout, on en est déjà à 850 millions d'euros d'annonces. Plusieurs partis, la France Insoumise, le PCF, Europe Écologie Les Verts, dénoncent l'opération de communication de ces grands mécènes dans la surenchère de promesses de dons. Le patron de la CGT, Philippe Martinez, y voit, lui, la preuve des inégalités dans le pays. Quant aux Gilets jaunes, eux aussi ont du mal à se réjouir de cette soudaine générosité. L'une des figures, Ingrid Levavasseur, dénonce l'inertie des grands groupes face à la misère sociale alors qu'ils prouvent leur capacité à mobiliser en une seule nuit, un pognon de dingue, avec les guillemets, pour Notre-Dame. Un chantier coûteux, long, certains doutent de la durée des travaux imposés hier soir par le président Macron. 5 ans, trop court, disent certains experts. Un chantier monumental et très technique aussi. Une entreprise de Seine-Saint-Denis propose aujourd'hui son aide et surtout ses compétences numériques. Son patron, Gaël Hamon, ancien tailleur de pierre, a numérisé, modélisé en 3D la cathédrale de Paris, des données précieuses pour le chantier à venir, Justine Agar.
Disposées sur le sol, de grandes feuilles noires laissent apparaître la structure des différentes parties de Notre-Dame. Autant de données précieuses aujourd'hui, emmagasinées en 25 ans d'exploration de la cathédrale pour le compte des monuments historiques, comme si Notre-Dame avait passé un scanner.
Dans notre métier, on a un patient, c'est le monument. Quand vous êtes malade, vous allez voir votre médecin qui prescrit des radios, un IRM. Ben là, l'architecte en chef a prescrit avec nous un scanner laser de cette partie-là. Et là, on voit chaque élément de bois exactement comme ils étaient.
Depuis lundi, Gaël Hamon et ses 25 salariés travaillent sans relâche pour récupérer toutes les données. Ils ont presque tout retrouvé.
Dès hier matin, à première heure, on s'est tous mobilisés et rassemblés nos 25 ans d'archives. Le premier qu'on a regardé, c'est ce qui a disparu. Donc c'est la forêt. La forêt, c'est toute la charpente qui couvrait Notre-Dame. Donc ça, on l'a en totalité. Vous le voyez, là, on a l'extérieur de la flèche. Vous voyez ici, on a une partie d'intérieur de la flèche. On a la descente des apôtres. On sait le refaire exactement l'identique.
Mais il reste encore un long travail pour reconstruire la cathédrale. Gaël Hamon doute que l'engagement d'Emmanuel Macron soit tenable.
5 ans me paraît très très optimiste.
Donc on est plutôt sur 10-15 ans, quoi.
Ça me semble plus raisonnable.
Une estimation qui rejoint celle donnée aujourd'hui par l'un des présidents du groupement des monuments historiques.
Et dans 3 quarts d'heure, à 18h50, les cloches des cathédrales partout en France vont résonner, 18h50, l'heure du début de l'incendie, avant-hier. Autre hommage au printemps de Bourges, la cantatrice Barbara Hendricks en est l'invitée d'honneur. Elle se recueille cet après-midi dans la cathédrale de Bourges pour Notre-Dame. Elle s'est confiée à notre envoyé spécial Mathieu Culeron.
C'est quelque chose qui nous appartient à tous. Une telle histoire de l'humanité qui a passé depuis le début de Notre-Dame qui concerne tout le monde. Les choses qui arrivent dans la vie comme ça nous rappellent que nous sommes les mêmes. On fait partie tous de cette famille de l'humanité. On était capables de faire quelque chose comme Notre-Dame. Nous sommes capables d'aider les uns et les autres et d'aimer plus.
Voilà, Barbara Hendricks, qui avait chanté à Notre-Dame de Paris en 1996 pour la messe pour François Mitterrand. Et puis demain, la mairie de Paris organise elle aussi son hommage devant l'hôtel de ville.
18h09, le journal Amélie Perrier. Amélie, un homme sur deux sur Terre est une femme, on le pensait, mais ce n'est pas tout à fait vrai.
Il manquerait en fait 23 millions de femmes depuis 1970. Une étude parue aujourd'hui démontre qu'à cause de la sélection pratiquée dans certains pays, de la préférence donnée aux bébés garçons, la démographie mondiale est déséquilibrée. Bonsoir Sophie Bécherel.
Bonsoir.
Expliquez-nous ces chiffres. Certains pays sont particulièrement visés.
Oui, les démographes les appellent les femmes manquantes, celles qui auraient dû naître et que des parents ont délibérément éliminées à cause de leur sexe. Et vous l'avez dit, elles se comptent par millions, avec accentuation du phénomène au fil des années. Sans surprise, deux pays sont responsables pour l'essentiel de ce déséquilibre, l'Inde et la Chine, en raison de leur poids démographique. Le tiers des naissances mondiales y a lieu chaque année. Cela aboutit à 11,9 millions de filles en moins en Chine et 10,6 millions en Inde en quasiment 50 ans. D'autres pays en Asie dévalorisent les filles, le Vietnam, la Corée du Sud, l'Azerbaïdjan ou Taïwan. La Tunisie s'est aussi privée de 37 000 femmes depuis 70. Cette date n'a pas été choisie au hasard par les démographes de l'étude parue dans PNAS. Elle marque l'arrivée de l'échographie prénatale et la possibilité de voir le sexe de l'enfant et donc de procéder à des avortements sélectifs. La baisse de la fertilité conforte ce déséquilibre, filles-garçons. Moins on a d'enfants, moins il y a parmi eux de filles. Sur la durée, cette situation engendre engendrera des tensions, difficultés à trouver une épouse, développement de la prostitution, de la violence. Pourtant, les pays qui ont pris des mesures pour rééquilibrer le ratio y sont parvenus. La Corée du Sud, récemment par exemple.
Spécialiste science Sophie Becherel, merci à vous. À l'étranger encore, l'Indonésie a voté. Le président sortant, Joko Widodo, est donné gagnant selon les premiers résultats. Le décompte officiel et définitif ne sera publié que le mois prochain pour ce scrutin hors norme. Plus de 190 millions d'électeurs inscrits, 245 000 candidats à la présidentielle, aux législatives et aux parlements régionaux. Joël Bronner s'est rendu dans un bureau de vote à Jakarta, la capitale.
Rika Hilary a le doigt taché d'encre, preuve qu'elle vient de participer au scrutin. Comme près d'un tiers des électeurs aujourd'hui, cette étudiante en médecine de 21 ans votait par ailleurs pour la première fois. Elle explique pourquoi elle a donné sa voix au président sortant, Joko Widodo.
J'ai pu constater le résultat de son travail, notamment de ses projets d'infrastructure. Et j'ai surtout pu voir sa générosité à l'égard du peuple. Et pour moi, c'est cela qui est de loin le plus important.
Mohamed Irfan, 41 ans, est agent d'entretien. Ce matin, il est venu voter avec sa mère. Tous deux viennent d'accorder leur soutien à l'ancien général Prabowo Subianto.
J'ai entendu beaucoup de prêches en faveur de Prabowo Subianto. Ils disent qu'en tant qu'Indonésien et en tant que membre de la communauté musulmane, il faut le choisir lui. Alors moi, je suis ce que disent les oulémas.
Dans le premier pays à majorité musulmane au monde, la question de l'islam a joué un rôle central dans cette campagne. Le poids des radicaux n'a cessé de progresser ces dernières années dans l'archipel et ils se sont massivement ralliés à l'adversaire du président sortant. Pour donner le change, Joko Widodo a lui fait le pari d'un colistier musulman très conservateur, quitte à offrir aux religieux un trône au sommet de l'État. Jakarta, Joël Bronner, France Inter.
La prison pour l'ancien président du Soudan, Omar El-Béchir, destitué par l'armée après 30 ans au pouvoir, a été transféré dans une prison de Khartoum, la capitale. Les manifestants dans la rue depuis 4 mois réclament le jugement de l'ancien dirigeant. Amnesty International appelle à le remettre à la Cour pénale internationale qui a émis des mandats d'arrêt contre lui, des mandats pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Un ancien président, là, s'est suicidé au Pérou. Alan Garcia s'est tiré une balle dans la tête au moment où les forces de l'ordre venait l'arrêter. L'ex-dirigeant est mis en cause dans un scandale de corruption. L'Allemagne à la traîne, elle réduit encore sa prévision de croissance pour cette année. Elle passe d'une hausse de son PIB d'1% à 0,5%, en cause une main-d'œuvre vieillissante et un sous-investissement chronique.
Amélie, l'histoire maintenant d'une sportive menacée dans son pays.
Sadaf Kadem est boxeuse et iranienne. Elle a gagné le week-end dernier son premier combat officiel en France, à Royan, mais hier elle n'a pas pris l'avion pour rentrer dans son pays avec son entraîneur, la star Mayar Monchipour. Sadaf craint pour sa vie. Le récit de Fanny Lechevestrier.
Selon nos informations, Sadaf Kadem et Mayar Monchipour se rendaient hier matin à l'aéroport de Roissy pour prendre justement un avion pour l'Iran quand ils ont appris qu'un mandat d'arrêt avait été délivré à leur encontre par Téhéran. Ils ont immédiatement fait demi-tour et se sont installés pour le moment à Poitiers, ce qui a provoqué la colère du régime iranien. Ce combat donc organisé samedi soir à Royan. À 24 ans, Sadaf Kadem devenait la première iranienne à combattre sur un ring, alors qu'à Téhéran, la loi autorise les femmes à s'entraîner, mais pas avec des hommes. Elles n'ont pas non plus le droit de disputer des compétitions officielles et publiques. Or, le combat diffusé en Iran via une chaîne internationale a connu là-bas un succès retentissant auprès de la population, Sadaf Kadem devenant un symbole, un modèle pour les autres iraniennes. Elle avait d'ailleurs déclaré juste après sa victoire « On a gagné pour les femmes. Les femmes peuvent franchir des montagnes si elles le veulent. » Le gouvernement français n'a pas encore réagi.
Et puis c'est un colorant que l'on trouvait dans les bonbons, le dentifrice, ou encore les médicaments cachés dans la liste d'ingrédients sous le code E171. Eh bien, le gouvernement interdit le dioxyde de titane dans les denrées alimentaires par précaution. L'ANSES, l'agence sanitaire, venait de publier un avis négatif sur ce colorant.
C'était le journal d'Amélie Perrier. Amélie, qu'on retrouve dans un gros quart d'heure sous les radars de l'actualité. Au sommaire ce soir, Amélie.
Eh bien, on va parler de Staline qui redevient un héros national en Russie. L'Allemagne décroche d'étoiles d'Émile Nold, nazi convaincu. Et puis, une école peu commune en Argentine pour les adultes transgenres qui veulent reprendre leurs études.
À tout à l'heure, Amélie, les couleurs du ciel.
La météo avec Gautier, le fabricant français de mobilier contemporain qui met de la vie dans les espaces, salons, séjours et les chambres pour petits et grands.
Voici Sébastien Léas de Météo France. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
Encore plus de douceur demain.
Oui, et les températures maximales déjà très élevées aujourd'hui vont monter d'un cran demain après-midi. La barre des 20 degrés sera très souvent dépassée. 22 degrés pour Lille et Strasbourg, 23 à Paris, à Brest et à Nantes, 24 degrés pour Bordeaux et pour Lyon et jusqu'à 26 degrés du côté de Clermont-Ferrand. La douceur sera parfois plus atténuée autour de la Méditerranée et au sud de l'Aquitaine. On aura quand même 23 degrés à Marseille, mais 19 degrés à Nice, Montpellier et à Biarritz.
Et un soleil voilé demain ?
Oui, en marge d'une perturbation située sur le proche Atlantique, un voile nuageux s'infiltre sur le pays. Le long des frontières de la Belgique, sur la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, les Alpes, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, ces nuages élevés seront encore fins demain. Mais ailleurs, ce voile se verra de plus en plus épais. En Aquitaine et en Occitanie, le ciel deviendra même laiteux. En matinée, des entrées maritimes vont encore déborder sur l'Aude et l'Hérault. Quelques grisailles seront aussi possible en début de journée près du delta du Rhône. Et puis il y aura aussi du vent. L'OTAN va s'accélérer, soufflant jusqu'à plus de 100 km par heure. Et puis de fortes, voire violentes rafales de vent sont aussi attendues sur les Pyrénées et entre l'Aveyron et l'Auvergne. Et puis la Provence et la Corse verront aussi le vent se lever demain après-midi.